Le grand témoin.
Bonjour et bon dimanche chez vous. Grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Tembo Mwindo Kachaouri. Il est bédéiste et caricaturiste ou dessinateur des presses. C'est lui que nous allons vous présenter aujourd'hui. Tembo Mwindo Kachaouri, qu'on appelle affectueusement par ses proches Kacha.
Exact.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes bédéiste et caricaturiste ou dessinateur des presses. Bédéiste et caricaturiste, c'est souvent deux termes qu'on confond ici chez nous. Vous êtes mieux placé pour nous donner la différence entre bédéiste et caricaturiste. C'est tout à l'heure dans cette émission. Mais vous allez nous parler aussi de votre parcours, de votre expérience en tant que caricaturiste. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer ou à vouloir travailler dans la caricature? Vous avez commencé ce travail depuis 90, si je ne me trompe pas.
Exact.
Alors, c'est tout à l'heure que vous allez nous parler de tout ça, mais on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né un certain 12 juin 1965.
Exact.
À Boutembo.
À Boutembo.
Au Nord Kivu.
Ouais.
Et c'est là que vous avez grandi.
J'ai grandi dans la ville voisine à Beni.
Ah, vous avez grandi à Beni.
Voilà.
Vous êtes né à Boutembo, vous avez grandi à Beni.
Voilà.
Pourquoi? Parce que les parents avaient déménagé.
Exact. C'est-à-dire que je suis arrivé à Beni à 5 ans, où j'ai commencé mes études, où j'ai fait mes études primaires et secondaires. Et après, je suis venu ici pour les études supérieures.
Vous avez fait des humanités littéraires.
Oui, parce que j'étais nul à maths.
Ah, c'est pourquoi vous avez choisi de faire la littéraire.
C'était facile pour moi de choisir, puisque j'ai...
Mais il y a aussi les maths en littéraire.
Oui, mais ça ne pèse pas pour faire passer des classes. Comme j'étais vraiment un cancre en maths, alors pour choisir ma section, j'avais choisi où les maths ne pèsaient pas. Quand on m'a dit que les littéraires, les maths ne pèsent pas, j'ai choisi les littéraires.
Dites-nous, vous avez grandi dans quelles conditions?
Ouais, tout à fait normal. Mon père travaillait dans une des grandes sociétés de la place où il était le responsable. Et j'ai fréquenté quelques écoles de la ville. J'ai fait mes études secondaires dans un collège qui existe toujours à Païda. Et j'étais quelqu'un... Je parlais pas beaucoup, mais j'ai joué avec les amis au foot.
Vous êtes timide?
Il faut dire, je le suis toujours, mais je me soigne.
Et comment vous vous soignez? Ça pourrait aider tous les timides qui nous suivent en ce moment.
J'utilise l'humour, ouais, pour repousser cette barrière-là. J'ai fait un effort pour me faire rire moi-même et les autres.
En racontant des histoires drôles.
Ouais, mais à l'intérieur de moi, je suis timide, je suis un grand timide.
Alors, quand je vous dis que vous avez grandi dans des conditions normales,
ouais.
Votre papa travaillait dans une grande entreprise de la place, moi je dirais que vous avez grandi dans des bonnes conditions.
Oui, tout à fait. On ne manquait de rien. On faisait partie de ce qu'on pourrait appeler la classe aisée.
Et quel est le souvenir que vous avez marqué pendant votre enfance à Beni?
Ah, je dirais tout de suite que ce sont les séances de cinéma. Ça m'a beaucoup marqué puisque de mon jeune âge, on devait aller suivre des séances de cinéma. Mais il s'est fait que dans la ville de Beni, il n'y avait pas de séances de matinée. On pouvait projeter les films que le soir. Et c'était difficile puisque mon père sur cette question était strict. On ne devait pas sortir le soir.
Et vous escaladiez le mur.
Exact, on devait sortir. Je ne me souviens plus du nombre de fois où je passais la nuit dehors. Je préférais, j'étais d'accord pour passer la nuit dehors et regarder le film.
Vu que vous ne ratiez pas le film.
Absolument.
Et vous aviez quel âge à peu près?
Et j'ai commencé à aller voir le film, je crois, à 10 ans, à l'âge de 10 ans. Je suis un grand cinéphile. Ça me permettait de m'évader.
C'était pas interdit aux enfants de 10 ans, la nuit, dans un cinéma, pour aller suivre des films?
Non. On y allait. Évidemment, il y avait quelques fois des séances où les enfants n'étaient pas admis. Mais généralement, c'était ce genre de film, le western, le film des karaté et le film hindou. Ouais, ça, on en a regardé des tonnes.
Cash Tembo, vous arrivez à Kinshasa en 1987. Là, vous êtes venu pour faire vos études supérieures.
Oui, exactement. Parce qu'au collège, il faut dire que j'ai toujours dessiné, mais je ne considérais pas ça vraiment comme une carrière que je pouvais faire plus tard. Puisque moi, c'était mon truc à moi. Je dessinais pour me faire plaisir. Ça me faisait plaisir de dessiner. Évidemment, je ne me rendais pas compte. C'est autour de moi, quand les gens étaient émerveillés, que je me rendais compte que j'avais un truc. Je me souviens que j'ai un grand frère qui s'est essayé au dessin aussi, qui s'appelle Limonas, il est toujours à Beignet. C'est lui vraiment qui m'a poussé. Il me disait, tu dois faire le beaux-arts, ce serait intéressant pour toi de continuer à le faire, puisque tu dessines bien, mon grand frère.
Mais personnellement, est-ce que c'était votre choix de faire les beaux-arts?
Écoutez, quand ça a commencé à rapporter de l'argent, je me suis dit pourquoi pas, parce que je me souviens...
Ça a commencé à rapporter l'argent à quel moment?
À l'époque de la mort de Bob Marley. Quand Bob Marley est décédé à 81... Je me souviens à l'époque, il y a un reggae de succès et tout le monde voulait avoir une image de Bob Marley sur son t-shirt, sur sa chemise. Et à l'époque, je faisais de la sérigraphie artisanale et je me suis mis à faire du Bob Marley sur le t-shirt. Et comme ça m'a rapporté de l'argent, et je crois que même mes études en ont pris un coup puisque j'ai refait deux fois de suite, quoi. Pour passer en deuxième secondaire, j'ai refait. Et pour passer en troisième, quand j'étais en troisième, j'ai dû refaire. Donc j'ai bissé deux fois. Et mon père furieux devait jeter tout mon matériel puisque ça rapportait de l'argent. Je ne dormais pas. J'étais tout le temps en train d'imprimer des trucs. Vous imaginez un bonhomme de 15 ans. J'avais des sous tout le temps à la récré. Je m'achetais des habits. J'étais la star à la récré puisque j'achetais des cocos, des bananes à tous les copains, quoi. Évidemment, ça m'a détourné un peu de mes études. Évidemment, mon père, il a jeté mon matériel et il m'a obligé de reprendre mes études. Mais à côté, je continuais à décider. Je ne pouvais plus m'arrêter. Quand j'ai eu mon diplôme de latin philo, j'ai fait vraiment foi aux encouragements de mon grand frère.
Vous vous êtes dit, je vais y aller, je vais me lancer.
Oui, justement, il y a eu un problème, parce que mon père n'était pas du tout d'accord. Parce qu'il se disait, mais tu le fais déjà, tu vas aller à l'université pour dessiner. C'est quoi cette histoire? Évidemment, Débé n'y pouvait pas s'imaginer qu'on puisse faire des études supérieures et s'en sortir, quoi. Parce qu'il dit, mais tu le fais déjà, tu fais des peintures, tu écris sur des murs et tout ça. Est-ce que tu peux vivre d'un travail comme ça? Pas question. Tu vas à Kisangani, tu vas faire Sciences Po. Évidemment, ça n'a pas marché. J'avais une idée en tête. Il a essayé de me décourager, me disant, tu vois, à Kinshasa, on ne mange pas. On mange qu'une fois par jour, on ne mange que les riz, c'est dur là-bas et je ne voulais rien savoir.
Vous, votre objectif, votre problème, c'était arriver à Kinshasa.
À Kine, donc.
Vous l'inscrire à l'Académie de
Beaux-Arts. Voilà, le bras de fer a fait une année, quoi. J'ai perdu une année. Au bout d'une année, il a dit, écoute, vas-y.
Mais qu'est-ce qui l'a poussé à lâcher finalement?
Oui, il comprenait que j'y tenais vraiment, c'est ça que je voulais faire. Et puis, il y a de mes cousins, Aubin Kachamura, qui lui venait à Kinshasa, qui allait au Beaux-Arts, où il y avait d'autres amis, et il voyait les architectes et d'autres. Il disait à papa que, écoute, il peut se retrouver, il y a des débouchés si on fait ces cours-là au niveau supérieur. Je crois qu'il est bon. Je crois que tout ça a fait qu'il a fini par céder.
Vous obtenez en 1991 votre graduation en graphisme publicitaire.
Exact.
C'est quoi graphisme publicitaire?
C'est-à-dire le travail qu'on nous
pour
a...
Pour ceux qui ne sont pas du domaine, hein, c'est toujours important d'expliquer ça.
D'accord. Ce sont des techniciens qui ont pour travail la conception du support graphique, c'est-à-dire les affiches, les étiquettes, les panneaux sur la route, ce genre de choses. C'est ça que j'ai appris au Beaux-Arts. Mmh. Évidemment, quand je venais au Beaux-Arts, comme j'ai toujours été fan de BD, je voulais faire la bande dessinée. Mais quand on m'a dit qu'il n'y avait pas la section de bande dessinée, j'allais même rentrer chez moi. Mais on m'a dit, il y a un prof qui a fait de la bande dessinée dans les temps. C'était Mongo Sissé qui faisait les séries de Matamate et Pili Pili dans le journal Zahir à l'époque. Et quand on m'a dit qu'il donnait cours à la section publicité, évidemment, j'ai accepté tout de suite. Puisque je les connaissais depuis tout petit. Je feuilletais les revues de mon père. Et je me disais, ce serait intéressant de le voir. Il pourra sûrement me donner des conseils pour le faire. Alors j'ai accepté de faire la publicité uniquement parce qu'on m'a dit que le professeur Mongo Sissé était là.
Alors Kachote Mobindo, est-il marié?
Oui, je suis marié depuis 20 ans.
Père de combien d'enfants?
4.
Est-ce qu'un de vos enfants est sur votre race?
Le tout dernier. C'est ce qu'il me dit. Je sais qu'il est toujours dans mes baskets. À chaque fois que je dessine, il est autour de moi. Il imite et il fait des choses. Apparemment, il est très intéressé. Très intéressé. Il dit, il n'arrête pas de dessiner.
Kash Tembo, c'est quoi votre plat préféré?
Je mange généralement du riz. Et ma préférence, c'est les légumes et du poisson. Ça, je pourrais manger tout et moi des légumes, du riz et du poisson.
C'est drôle quand même pour quelqu'un de Nord Kivu.
Oui.
De ne pas citer les haricots parmi le plat préféré.
J'ai une espèce d'overdose de haricots.
Vous en avez tellement
haricots.
Mangé
ouais.
que...
Tout mon corps est fait de mes dessous.
Vous avez atteint le quota, quoi. Sportif ?
Oui.
Qu'est-ce que vous faites comme, qu'est-ce que vous pratiquez comme sport?
Bon, comme j'ai maintenant une carrière qui me prend presque tout le temps, mais chaque semaine, j'ai l'état de faire un peu de footing et de la musculation deux fois par semaine. Mm-hmm. Mais dans l'état, je jouais au foot, au volley, je fais même de l'acrobatie et au badminton.
Pourquoi vous avez arrêté?
Je n'ai plus suffisamment de temps et voilà. Mais pour entretenir ma forme, ouais, pour entretenir ma forme, je m'entraîne deux fois par semaine.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Plein de choses, la guerre, l'hypocrisie, l'arrogance, voilà.
Cash Tembo Muindo, après vos études à l'Académie des Beaux-Arts, est-ce que vous avez commencé directement à travailler ou vous avez chômé un peu comme la plupart des universitaires? Lorsqu'ils sortent de l'université ou des instituts supérieurs, on chôme un peu le temps de trouver du travail. Est-ce que c'était facile pour vous de trouver un emploi?
Ah, je dirais oui, je fais partie de ces personnes. Enfin, je bénis les ciels pour m'avoir donné de quoi m'occuper tout de suite pendant que j'étais encore aux études. Un de nos profs s'appelait Ilunga Kasambai, il était prof à l'IFASIC et en même temps au Beaux-Arts. Il nous donnait les cours de sciences à communication, puisqu'on nous apprend à être communicateur, mais par l'image. Et lui, il était, il connaissait un éditeur, l'éditeur du journal Le Phare, M. Moboyaï Polydor, et il m'a fait savoir que M. Moboyaï avait besoin de quelqu'un pour animer ses pages détente. Il me voyait faire de la bande dessinée, j'affichais ma bande dessinée sur la fenêtre de nos ateliers, alors il m'a proposé ce travail. Je suis allé voir l'éditeur, qui a accepté tout de suite, et il a publié une première histoire, et une deuxième histoire. À l'époque, Le Phare était encore un hebdomadaire. Et après, il m'a appelé pour me dire, est-ce que tu sais faire des caricatures? Parce que ce que je lui avais proposé, c'était de la bande dessinée. Alors là, comme je ne faisais pas encore la caricature, j'étais vraiment content d'être édité. J'ai menti, j'ai dit, écoutez, je le fais aussi.
Alors que vous n'aviez jamais fait ça?
Je ne l'avais jamais fait auparavant. C'est-à-dire que...
C'était juste pour qu'il vous embauche.
Oui, je voulais voir mes décès continuer à être publiés. Alors je me disais, je ne vais pas lasser ce job. Juste après deux publications... c'était pas mal payé à l'époque. C'était bien payé à l'époque. Comme j'étais étudiant, ça me permettait d'avoir l'argent pour acheter mon matériel et avoir un peu d'argent de poche. Donc j'ai dû apprendre.
Et donc vous avez commencé à étudier, vous avez commencé à travailler pendant que vous étiez encore aux études.
Oui, là j'étais encore aux études.
Radio Capi, grand témoin.
Voilà, tous les auditeurs des Radio Capi qui nous suivent en ce moment, grand témoin vous fait découvrir Tembo Muindo Kashaori, Kash pour les intimes. Il est bédéiste et caricaturiste ou dessinateur des presses. On était en train déjà de parler de votre parcours, hein, Kash Muindo. Donc vous avez commencé au journal Le Phare par une sorte de bande dessinée, hein, des histoires.
Oui, j'ai publié d'abord des bandes dessinées. Après, l'éditeur m'a proposé de faire des caricatures.
Alors, c'est quoi la différence entre bande dessinée et caricature? Ou un bédéiste? Un bédéiste, c'est celui qui fait des bandes dessinées.
Ouais.
Et un caricaturiste. Est-ce qu'il y a une différence?
Absolument. Bon, c'est vrai qu'ils appartiennent à un univers qui, à deux univers qui sont très proches. C'est-à-dire, un dessinateur de bande dessinée et un caricaturiste utilisent pratiquement le même matériel pour faire leur travail, pour produire leurs œuvres. Ils utilisent le papier, le crayon, la gomme. Et, la bande dessinée, si je peux me permettre une définition lapidaire, c'est cette technique qui consiste à raconter une histoire par une succession d'images. Alors, vous racontez une histoire par une succession d'images, ça se lit de gauche à droite. Ça peut être une histoire de fiction ou historique ou biographique. Vous pouvez créer une histoire, vous créez des personnages et vous commencez à raconter une histoire. Ça peut se faire sur une page, ce qu'on appelle planche à bande dessinée, ou ça peut prendre 48 pages, les bandes dessinées classiques, ou même plus, ça peut prendre une centaine de pages, l'histoire. Et une caricature, généralement, c'est ce genre de dessin qu'on retrouve dans la presse, qui traite d'un thème, deux fois en une image. ils recourent deux fois à la technique de la bande dessinée. Ils peuvent raconter une histoire par une section d'image, mais ces dessins sont la plupart des fois collés à l'actualité. Comme le dessinateur de presse, généralement, il fait son travail tous les jours. Il travaille avec ce qu'il faut des articles. C'est une espèce de complément des articles où il y a un autre regard.
C'est un peu comme une actualité hein, que vous donnez sous forme de dessin. Ou de...
Ouais, voilà. Mais ces dessins généralement humoristiques. À la différence que la bande dessinée, on peut dessiner soit des personnages humoristiques, soit réalistes. Mais généralement, la caricature, comme le dit le mot, c'est exagéré. Caricare, comme la signification les rend à la tête, c'est exagéré. Donc, tordre la réalité.
Et vous, vous avez commencé ce travail de caricaturiste depuis 1990, l'année de l'ouverture démocratique.
Parce absolument.
Qu'avant cette année-là, c'était difficile hein, dans la presse de faire
il faut
ça.
Il faut le dire, on n'avait pas le droit de le faire. Enfin, ceux qui le faisaient, je me souviens qu'il y avait quelques dessins humoristiques, mais c'était sur le sport, sur des faits sociaux, mais jamais la politique. Et à ces propos, j'ai été le premier, je sais très bien, j'ai été le premier à faire de la caricature politique. À caricaturer le maréchal Mobutu.
Ça ne vous avait pas créé des problèmes hein? Même si c'était l'ouverture démocratique, vous n'avez pas eu des problèmes lorsque vous avez commencé à caricaturer le président Mobutu?
Bon, c'est vrai que je ne me rendais pas compte. Vous savez, on était emporté par cet élan démocratique, cette ouverture de l'espace d'expression. J'étais un étudiant comme la plupart, on avait envie de nous exprimer et je ne me rendais compte que quand on me faisait la remarque, sinon j'avais envie de dessiner, de m'exprimer. C'est de là où vient d'ailleurs mon nom de cache. Mes profs m'ont conseillé d'user des pseudonymes. Ils m'ont dit c'est encore dangereux, c'est vrai qu'on s'ouvre à la démocratie, mais tu ferais mieux de tes. Mais j'ai continué à signer de mon nom et finalement j'ai décidé de couper mon nom de Cachaour et en cache pour me cacher.
Des problèmes.
Voilà.
Mais on a fini par découvrir que c'était vous.
Après, je sais qu'à l'époque, s'il y avait des problèmes, on faisait des remontrances plutôt aux responsables du journal. Je n'étais pas encore très connu à l'époque et donc je n'ai pas été vraiment inquiété. C'est vrai que j'y arrivais à être présenté à ces gens que j'ai croqués avec saveur. Et d'habitude, ils étaient aimables. Mais il y en a qui disaient qu'ils n'étaient pas très contents. C'est souvent dans mon dos, quoi. Ah, ils disaient, ah, c'est génial ce que vous faites. Mais dès que j'avais les dos tournés, ils disaient, méchant garçon.
Et c'est ça même qui vous a fait connaître Cache Mouindo.
Oui, c'est vraiment où là je fais mes armes au niveau de la caricature au phare, où je suis resté 3 ans. Mais parallèlement, à la même année, j'ai approché une association créée par Barli Barouti, parce qu'il venait de lancer une association qui avait pour objectif la promotion de la bande dessinée et des arts en général. Parce qu'il voulait réinsérer, il voulait récupérer des jeunes, des œuvrés et d'autres, et faire la promotion de la bande dessinée. Donc j'ai rallié cette association.
Qui s'appelait la CRIA.
La CRIA, voilà. Ils avaient organisé un concours. Atelier de création et initiation à l'art.
Vous avez même dirigé cette association, je crois, pendant 3 ans.
Voilà, exactement. De 99, je crois, à 2001.
Mais là, c'était surtout plus pour les bandes dessinées, pour la
exact,
bande dessinée.
Exact, pour la bande dessinée. Donc, parallèlement, j'ai été caricaturiste et BDiste. Comme la plupart des Congolais, d'ailleurs. La plupart des Congolais, ils sont dessinateurs de BD et caricaturistes. Comme il n'y a pas de maison d'édition pour la BD, ils se rabattent sur la presse pour exister, quoi. Ce qui fait que la plupart des dessinateurs congolais sont même des dessinateurs de presse. Ce qui est un fait. Quand on va en Europe, c'est pas vraiment un monde proche, quoi. Ils sont chacun dans son univers, mais ils utilisent les mêmes codes graphiques. Il y a des paroles à fermer dans une bulle, des fois ils bougent, des fois on peut voir des cases, le genre de cases qu'on voit dans la BD, mais c'est vraiment deux mondes séparés. Mm-hmm. Mais ici, au Congo Kinshasa...
On ne fait pas trop la différence entre les deux.
Voilà.
Cache Mouindo, pendant toutes ces années où vous faites la caricature politique, pas seulement politique, hein, il y a aussi des sujets à caractère social,
oui,
économique,
culturel
que vous caricaturez. Mais ce qui intéresse beaucoup plus les gens, c'est souvent les caricatures politiques.
Ouais, ça, c'est pas moi, ce sont les éditeurs. élites, les éditeurs, enfin les responsables des journaux qui préfèrent que je décide, que je fasse mes décès à propos de la manchette.
Ça veut dire que le matin, vous assistez à la conférence des rédactions, on vous dit aujourd'hui on va caricaturer sur tel sujet ou c'est vous-même
Non, c'est-à-dire quand j'arrive à la rédaction, généralement vers la fin, c'est-à-dire je vais à la rédaction généralement à partir des 16h, même 18h. Et c'est là où je pose des questions, on m'explique ce dont on va parler. Il arrive, quand je suis là, je participe au conseil des rédactions et ça me donne des idées. Parce qu'il arrive qu'on débatte des thèmes ou qu'on traite des thèmes que je ne maîtrise pas. J'ai besoin d'explications pour pouvoir créer mon dessin. Et généralement, quand on m'explique, je fais des propositions même. Au début, je devais faire un dessin pour montrer au rédacteur en chef. Et quand on se met d'accord, je le mets au propre. Mais deux fois, comme on a pris l'habitude...
Le dessin, le texte aussi.
Oui, non, le texte, j'ai suffisamment travaillé, je l'ai créé moi-même. Il me donne l'information et je cherche des codes propres à moi-même. Parce que je prends l'information, je la tords, je la rends selon mes codes propres. Je l'exagère, je la rends selon mes formes. Mais je ne m'écarte pas de l'esprit de l'article. Mm-hmm. Voilà.
24 ans, presque dans ce domaine, dans ce métier.
Ouais.
Quel est le meilleur souvenir que vous gardez?
Je dirais d'abord 24, je fais 3 ans au journal Le Phare et pendant 10 ans, je n'ai pas publié mes dessins. Mais j'ai continué à faire du dessin de presse, mais pour moi-même. Et j'ai repris en 2003 dans le journal catholique, le magazine catholique Renaître. Et au bout de 3 ans, j'ai arrêté, je suis allé au potentiel.
Et pourquoi ces interruptions?
Donc, c'est-à-dire que quand j'ai arrêté au Phare au bout de 3 ans, c'est parce que je venais de terminer mes études et j'avais une certaine idée du travail que je faisais. Je voulais qu'il soit payé à sa juste valeur et comme on s'est pas mis d'accord avec les responsables du journal, je suis parti. Comme en même temps je faisais la publicité, je me suis occupé de la publicité de la bande dessinée. Et pendant 10 ans, je n'en faisais pas jusqu'à ce que le
Renaître... Pendant 10 ans, vous étiez juste dans la publicité et la bande dessinée.
Publicité, bande dessinée. Mais je n'ai jamais arrêté à faire le dessin sur tous les grands événements, ce qui fait que j'en ai fait une édition.
Vous avez gardé dans vos tiroirs.
Oui, j'ai publié en 2011... les 20 ans de la transition congolaise, donc 1990-2010, ça fait 20 ans. Il y a un livre que je vais rééditer d'ailleurs cette année qui s'appelle 20 ans de RDC, c'est-à-dire 20 ans de razzia, déluge et chaos.
C'est pour quand?
Je suis encore à pourparler avec les éditeurs. Mais c'est tout est fini parce que j'ai déjà réédité les livres moi-même. J'avais réédité les livres moi-même. C'était une édition très limitée. Je compte les rééditer avant la fin de l'année. Mais vous le saurez sûrement quand le livre sortira.
Et vous avez eu participé à plusieurs ateliers en Afrique et en Europe. Là, c'était dans le cadre de la bande dessinée ou bien de la caricature?
Les deux. Les deux, la plupart des festivals d'abord qu'on fait en Afrique, c'est ils mettent ensemble le dessin de presse et la bande dessinée, puisque c'est un phénomène qui touche aussi d'autres pays africains. Comme il n'y a pas vraiment des maisons d'édition africaines, et les deux mondes vraiment sont rapprochés. Donc à chaque fois que j'y vais, c'est pour exposer mes travaux et participer à ce genre d'atelier. Nous, on anime des fois des ateliers, puisqu'il faut reconnaître que les Congolais ils sont en avance. Ils ont vraiment une place de choix. C'est nous qui formons.
Par rapport aux autres Africains ou même aux Européens?
Non, aux Africains. C'est une technique qui est venue de l'Europe. Mais en Afrique, nous avons formé beaucoup, beaucoup d'Africains. Nous avons été le premier à organiser un festival international de bande dessinée. Un festival qui n'existe pas, il n'existe plus malheureusement.
Lorsque vous dites que vous avez été le premier, vous ou bien l'association des...
Notre association, en fait, le Congo a été le premier pays africain à organiser ce genre de festival. Mm-hmm. En fait, c'est une espèce d'héritage colonial. Vous savez, la Belgique, c'est le pays de la bande dessinée en Europe. Et il s'est fait que très tôt, nous avons embrassé cette discipline vers la fin des années 60. Il y avait déjà des dessinateurs de bande dessinée congolais. Et il fait que nous avons le plus grand nombre de dessinateurs en Afrique et le plus en qualité et en nombre.
Ça, je vous l'ai dit. Qui sont pas connus?
Comment?
Qui sont pas connus?
Qui sont connus?
C'est quelques-uns qui sont connus.
Il y en a beaucoup. Vous savez, il est arrivé qu'on publie un album collectif de tous les Africains, surtout l'Afrique francophone. Et dites-vous qu'il y a 30 dessinateurs de l'Afrique francophone qui sont édités, la moitié c'est des Congolais. La moitié ou plus de la moitié c'est toujours des Congolais. Et ça depuis 92. J'ai commencé à participer à ce genre d'album depuis 92 jusqu'à 2000. Le dernier, à 2005. Le dernier dans lequel j'ai participé c'est à 2005. Et vous pouvez consulter ces albums. Au secours qui était édité par CGDO, il y a un autre Sous les Baobabs édité par Équilibré Population et un autre BD Africa. La majorité des dessinateurs viennent du Congo Kinshasa. Ça c'est un fait. Et il y a même un dictionnaire sous la BD africaine qui est sorti, édité par l'Armata. Vous pouvez consulter, vous verrez, la majorité des dessinateurs c'est des Congolais. Moi je suis édité en Europe et dans ma maison d'édition qui est européenne, il y a déjà 4 Congolais. Nous sommes les seuls Africains dans cette maison d'édition. Nous sommes 4. Et il y a autant d'auteurs congolais en Europe, en France et un peu partout.
Est-ce que vous êtes satisfait du travail que vous faites?
Oui. Ça va très bien pour ceux qui vraiment se donnent le temps de le faire avec professionnalisme, mais moins bien pour ceux qui le prennent pour un truc... faute de mieux, mais je sais que une bonne dizaine de dessinateurs vivent de ça. Je connais des collègues ici et en Europe, nous vivons essentiellement de nos créations de bandes dessinées et de ceux de presse.
Je sais qu'à une certaine époque, les jeunes aimaient beaucoup lire les bandes dessinées, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat.
Écoutez, je ne sais pas si vous parlez par rapport aux autres formes des médias qui sont venus entre temps, par exemple l'Internet. Je sais que moi j'ai toujours lu, mais mes enfants, je le vois lire. Les autres, je le vois lire. Il y a déjà qui éditent des magazines pour les enfants, mais écoutez, chez nous, c'est un vrai problème.
Peut-être parce qu'avec l'avènement d'Internet, tout le monde veut aller sur Internet.
Ouais, il faut dire
On fait des recherches sur Internet, on peut lire une BD sur Internet.
Voilà. Bon, il faut dire que chez nous, il n'y a pas de maison d'édition. C'est difficile. La plupart des BD qu'on a sur le marché, elles viennent de l'Europe. Tous mes éditeurs, ils viennent de l'Europe. Je suis édité en Europe, pas des éditeurs européens. C'est vraiment dommage, puisqu'il y a un vrai marché, il y a un marché potentiel, puisque lors de 5 salons qu'on a eu à organiser, ces salons nous ont démontré qu'il y a un public qui voudrait voir des publications congolaises. Et c'est possible de le faire, puisqu'il nous suffit d'adapter nos productions au pouvoir d'argent, au pouvoir local, et ils pourront s'acheter, puisque les histoires... Il y en a des tonnes ici. Il y en a des tonnes ici. Dommage que ce que je fais pour le moment ne vu que par une partie du public et le plus âgé qui lisent les journaux. Mais on est en train de travailler pour voir. Le problème, c'est que nous, on n'est que dessinateurs. C'est d'autres personnes qui devaient s'occuper de l'édition. Puisqu'on a beau être un beau dessinateur, mais l'édition, c'est un autre travail qui demande des moyens, qui demande du professionnalisme. Et ça nous manque cruellement. C'est comme d'autres collègues de la musique, vous voyez, on a autant de musiciens, mais il n'y a pas vraiment de structure pour promouvoir cette musique. Ce qui fait que la plupart des fois, on est tourné vers l'extérieur. Et c'est vraiment, ça nous fait très mal. Même la BD que j'ai sortie pour le public congolais, elle est hors de prix pour le plus grand nombre. Parce que ma BD, j'aimerais pouvoir la vendre tout au plus $3. Mais c'est impossible. Telle que la façon dont elle est imprimée en Europe et tout ça. Ce serait intéressant qu'on puisse le faire, mais
vous voyez, ici.
Voilà, le pays a tellement de problèmes et je dirais que ceux qui ont la charge de s'occuper de ces secteurs, ils sont ailleurs, quoi. La culture, ils savent pas. Alors que la culture, que c'est un de ces domaines qui permettent qu'on parle du Congo positivement. Le Congo, quand vous allez à l'extérieur, on en parle d'un des prismes pas très valorisants. C'est la guerre, les viols et tout ça.
Mais on a une image négative du Congo,
voilà,
à l'extérieur.
Mais quand nous, les artistes, nous allons à l'extérieur, ça permet qu'on parle du Congo positivement. Et la plupart des gens qui nous voient proposer notre travail...
Malheureusement, vous n'êtes pas accompagné par le gouvernement.
Non, ils ne nous accompagnent pas. Ils nous mettent les bâtons dans les jambes. On devait supprimer le ministère de la Culture. Je l'ai dit comme je pense. Parce qu'il sert à rien, et surtout qu'on me demande de payer à chaque fois que je sors du pays. Parce que vous savez que les artistes payent une autorisation de sortie. Alors que c'est eux qui devaient nous appuyer, mais on les paye à chaque fois qu'on va à l'extérieur.
Alors, Cash Tembomindo, on va souffler un peu. Mmh. Vous arrivez d'écouter de la musique hein?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis un mélomane pur jus.
De quel artiste?
Il y en a beaucoup, mais je vous dirai tout de suite Lokwa Kanza, Jaguba, Zaïko Langalanga.
Ça vous ressemble, hein? Lokwa Kanza,
c'est un ami en plus.
Vous ressemble vraiment ce genre de musique-là.
Voilà, il fait des bonnes choses, mais j'aime la rumba, j'aime un certain nombre. Mais Lokwa Kanza, quand je travaille, j'écoute beaucoup. Jaguba, c'est vraiment mon style de musique.
Est-ce que ça vous inspire un peu lorsque vous écoutez cette musique?
Beaucoup, ça entretient la concentration.
Sûr?
Absolument.
Ça ne vous distrait pas?
Pas du tout. Ça fait
ça
une espèce.
Ça ne vous emporte pas, ça ne vous fait pas rêver. Et puis là, du coup, vous vous déconcentrez sur le travail que vous faites?
Non. C'est le contraire. Des fois, quand il n'y a pas de musique, je ne sais pas travailler. C'est-à-dire que la musique fait une espèce de carapace, une espèce. Ça me couvre. Ça m'empêche de faire attention à tout ce qui se passe dehors. On peut se battre dehors. Quand il y a une bonne musique, je ne suis pas. Je suis concentré pour faire mon travail. Ça m'aide beaucoup.
Alors, quel titre de Lokwa Kanza vous ferait plaisir en ce moment?
Famille.
Famille. Ça se chante comment?
Ah, je ne suis pas un très haut chanteur, mais pour votre gouverne, c'est dans l'album Kolo et il fait un featuring avec Fally Ipupa.
Ah, d'accord. Je vois la chanson.
C'est le numéro 6, je crois, si je ne m'abuse.
Je vois la chanson. Alors, on va demander à la technique de nous balancer la chanson Famille pour votre plaisir et pour le plaisir de tous les mélomanes ou tous les fans de Lokwa Kanza qui nous suivent en ce moment à Beni, à Butembo, disons au Nord Kivu. Hein?
Ah,
nous suivons
super.
En ce moment sur Radio Kapi et même à l'étranger, grâce à notre site internet www.radiookapi.net. Mmh. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Zana bomo tangu makasi zana nzoto yebisa fami tolinga kabango iboso bawa yebisa boyoyo kumisakae kisalo lango nayo kozela te bakufa o simo ya kutanda mosolo kozela te bakoma na bokono lakisa lolango na yo tango za na bomoi lakisa bango motindokani yolingaka bango yolelaka motema Baoyo pete la katolo Yebisa bango boye
Jimukuna nga bikola be
Oh
Nakupenda Mumezo lange Fami Nalingi bino
Mukulaka
Yo
Kozela te bakoma na bokono Pola kisalo lango na yo Kozela te ba awa Sima otanda wolo na lilita Yango wana lelo
Yebisa bango boye Chimukuna na bikola be
Oh yo ye ye
Nina nga kasyo to
ngekini Ayo
Mume zolange Fami na lingi bino Chimukuna na bikola be Na kupenda Mume zolange Family,
kimyo.
Menzi be.
Tangwango yo yakula kisalolamu. Kozela te bakende na paradiso. Kozela te babunga na ifelo. Tango zana bumo ila kisa. Yebisa lolango na yo. Yebisa bango.
Chimuko na gali kola be.
Oh, oh.
Aye,
aye, misolange, fani na imino, oh oh.
Jingu
kunanga biko la ve,
nakupenda,
oh ma, misolange,
fani na imino,
ah oh.
Jingu kunanga
biko
la ve,
nakupenda, oh misolange.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Et Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Tembo Moindo Kachaouri, les bédéistes et caricaturistes ou dessinateurs des presses Cash pour les intimes. Mmh. Alors Cash pour les jeunes qui veulent s'élancer dans la caricature, qui veulent faire comme vous. Quel conseil vous pourriez leur donner? Est-ce qu'il faut qu'ils s'élancent?
Oui, si. C'est un métier très difficile qui demande beaucoup, beaucoup d'abnégation, beaucoup de patience. Et vous savez, nous, le problème, c'est que nous vivons dans un environnement qui n'encourage pas ces secteurs, comme la plupart. On a des problèmes à tous les niveaux. Le tout, c'est de pouvoir faire un effort pour apprendre. Parce que c'est un apprenant, prendre l'état d'apprendre. Puisque, évidemment, quand on arrive à faire quelque chose, si on se plafonne, on se dit, ah, c'est bon, on est mal barré. Il faut qu'il prenne le temps. Et il a fallu du temps pour que j'arrive à faire ce que je fais maintenant.
Et à vous faire connaître.
Absolument, je me suis battu, vous voyez, j'ai dû arrêter pendant 10 ans parce que je refusais d'être payé à monnaie de sang. J'estimais que mon travail valait quelque chose et j'ai refusé de donner mes dessins à la presse jusqu'à ce que la presse reconnaisse mon travail. C'est ce que j'ai fait 10 ans. J'aurais pu avoir de l'argent, mais c'était pas ça que je voulais. J'estime mon travail qu'il est honorable et il a fallu que je sois publié à l'étranger pour que la presse locale fasse attention à moi. Évidemment, à l'occasion, comme à l'occasion, je sais qu'ils ont été sûrement informés par le fait que je produis beaucoup de mes œuvres à l'extérieur, ce qui a fait qu'on fasse attention à moi. J'ai accepté pendant 10 ans de ne pas publier mes dessins pour qu'on reconnaisse mon savoir-faire. Et ça, ils doivent pouvoir le faire. Accepter d'apprendre, c'est sacrifier et refuser n'importe quoi.
Alors, Cash Mouindo, dans vos caricatures, vous avez touché presque, je dirais, beaucoup des politiciens congolais.
Tous.
Tous, ça.
Tous ceux qui sont en vue, en tout cas.
Même
pas
plus...
en vie, mais en vue.
Oui.
Les plus connus.
Depuis 90, ça.
Absolument. Ouais, si vous, je me ferai un plaisir de vous offrir mon album sur la transition congolaise. Et vous verrez que pratiquement tous. Et c'est d'aujourd'hui encore, depuis que j'ai repris, il y a 10 ans que j'ai repris, donc même la génération actuelle,
ils en ont tous. Il y en a qui naissent, hein.
Ouais. ils en ont tous à leur grade respectif.
Aujourd'hui, vous travaillez pour le journal Le Potentiel.
Mais
j'ai l'impression, entre autres, voilà, parlons du Potentiel, mais j'ai l'impression que vous faites de moins en moins de caricatures dans le journal.
Et il s'est fait que quand je ne suis pas là, des fois c'est difficile pour moi d'envoyer mes dessins. Il s'est fait que je vais dans des pays où peut-être aux heures où ils travaillent, moi je dors. Quand je vais très loin, par exemple en Asie, c'est compliqué. Quand vous ne voyez pas
mes dessins... Ça veut dire que vous voyagez beaucoup.
Oui, je bouge généralement deux fois par an. Et si on dit au niveau de la région, là, des fois je suis à Brazzaville, des fois je suis à Pointe-Noire, je suis à Yaoundé, à Conakry. Ce qui fait que deux fois quand vous ne voyez pas mes dessins, c'est uniquement parce que je suis absent. Mais il arrive que des fois on choisisse de mettre une photo pour une raison simple. Et il peut y avoir des informations qui demandent qu'on mette une photo. Et la photo parlait mieux. Mais généralement, je sais que généralement, quand je suis disponible, c'est 6 jours sur 6.
Grâce à vos dessins, vous avez remporté plusieurs prix cash.
Je ne fais pas attention au prix. Je préfère l'écriture.
Vraiment?
Oui, puisque ça va mais plafonner. Je vais m'arrêter, quoi. Généralement, j'ai oublié.
Mais c'est une reconnaissance lorsqu'on vous remet un prix. Quand
oui.
Vous me dites que vous ne vous intéressez pas au prix.
Je m'arrête un moment pour dire que j'ai fait du chemin, mais j'ai fait un effort pour vraiment ne pas m'attarder. Pour dire que je dois mériter cette marque de confiance et aller de l'avant.
Alors tout à l'heure, lorsque je vous ai posé la question sur vos caricatures dans le journal Le Potentiel, vous m'avez dit je travaille entre autres au Potentiel. Donc en dehors du Potentiel, vous travaillez dans d'autres journaux de la place?
Oui, j'envoie régulièrement mes dessins à notre association Cartooning for Peace qui publie des dessins dans le journal Le Monde. Donc mes dessins sont publiés aussi dans Le Monde en France. Et il arrive que mon pote...
Et vos dessins, c'est sur l'actualité de la RDC, les dessins que vous envoyez?
Non, c'est-à-dire on parle de tous les sujets. Il y a une association qui a été créée en 2006 par l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, et Plantu, qui est le dessinateur vedette du journal Le Monde. Ils ont créé cette association après le dessin sur le prophète Mahomet qui a provoqué beaucoup de morts. Et on a fait cette association pour faire comprendre aux gens, on ne fait que dessiner. Nous, on n'est pas là, c'est vrai, pas pour faire plaisir aux gens, mais on est là pour élever les bas, pour alimenter les débats. Et c'est cette association. Quand il y a des sujets, à chaque fois, si vous regardez France 24, il y a une dame qui passe chaque vendredi et il commente nos dessins. Elle fait partie de l'équipe éditoriale de Cartooning for Peace. Donc, on envoie tous nos dessins sur des sujets, que ce soit la Syrie, ça peut être Boko Haram.
C'est vous propose ou c'est vous qui proposez?
C'est eux qui proposent. Ils disent, écoutez, sur cette semaine, on va parler du problème de l'Ukraine. Est-ce que vous avez fait un dessin là-dessus? Vous pouvez nous l'envoyer? Parce que nous, on n'attend pas qu'on nous commande. Mais on peut, à l'occasion de ce thème, faire un dessin. Mais généralement, ils disent, écoutez, on va parler de la République centrafricaine. Est-ce que vous avez un dessin disponible? Envoyez-le nous. Et c'est de suite. Et ils sont publiés sur le site et dans le journal Le Monde.
Voilà, Cash, c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. Peut-être un dernier mot avant de nous séparer?
Moi, je dirais pas de monde l'a fait, je dirais à suivre.
À suivre?
J'espère que c'est pas la dernière fois, parce que je vous ai promis de revenir avec quel album sur le 20 de la transition sera là. J'espère que vous accepterez de me recevoir pour en parler.
Venez d'abord avec l'album, on verra.
D'accord.
À suivre, comme vous dites. Merci beaucoup et bon dimanche.
Merci pareillement.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Tembo Mouindo Kachaouri, alias Cash. Il est bédéiste et caricaturiste des presses. Merci à Sylvain Matundu qui est à la prise de son au micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.